Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 30 avril 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Évidemment, les élections au Canada, là, on a un gouvernement libéral minoritaire. Quel impact ça a eu sur les marchés? En fait, pas grand-chose. Donc, même si c'était une nouvelle qui concerne les Canadiens, c'était pas une nouvelle là, qui a vraiment eu un impact significatif sur les marchés boursiers, ni sur les taux, ni sur la devise.
Mais je peux dire que ça a retenu l'attention dans le monde entier. J'ai lu des articles dans le Wall Street Journal à ce sujet, plusieurs articles.
Exact. Au niveau des marchés boursiers, ben, en fait, on a une très bonne semaine sur la bourse depuis la semaine dernière, le Nasdaq en hausse de 7 % le S&P 500 en hausse de 5 % le TSX en hausse de 2,3 %. On a quand même une rhétorique sur les tarifs qui se calme beaucoup aux États-Unis. On peut y croire, ne pas y croire, ça, peu importe. Ce qui nous importe, nous, c'est que le marché performe depuis cette semaine. Ça fait du bien. Ça ramène les performances du mois d'avril légèrement en baisse, seulement 1 % sur le S&P 500. Je me souviens, il y a deux semaines, on était en baisse de 7-8 % durant le mois. Donc, ça va quand même pas mal mieux. Le Nasdaq est en territoire positif. Du côté canadien, là, une hausse de 2,3 cette semaine, 0 en avril. On est en hausse de 0,6 année à jour au Canada. Les taux d'intérêt ont baissé quand même de façon significative cette semaine. Aux États-Unis, les 10 ans sont passés de 4,38 à 4,17. Donc, ce n'est pas étranger à la hausse du marché. Le marché se stabilise autant au niveau des actions qu'au niveau des obligations. Et ça, c'est bien vu. La saison des résultats financiers se poursuit. Ça va relativement bien. Donc, les entreprises, en général, publient des assez bons résultats financiers. C'est pas parfait. C'est pas tout le monde là, qui va bien. Mais en général, là, je pense que c'est mieux que ce qui était craint. Il y avait beaucoup d'anticipation au niveau des résultats financiers que les entreprises étaient pour vraiment là, peindre un portrait très sombre du futur. Puis c'est pas le cas. Certaines entreprises sont plus pessimistes que d'autres, là, mais en général, je pense que le marché avale bien cette saison des résultats puis voit quand même l'avenir avec un certain optimisme ou moins de pessimisme qu'on avait il y a quelques semaines. Donc, le ton pour l'instant est relativement positif. On se croise les doigts là, que ça tienne.
Merci beaucoup, Martin. Dans notre série du mois d'avril pour rassurer nos clients, on veut aujourd'hui faire un autre balado pour vous rassurer. Ouais. Donc, quand on parle de placement, c'est facile de se sentir nerveux, on le sait, surtout en période de volatilité de marché. Mais comme toute bonne histoire, ce n'est pas la chute qui compte, c'est la remontée.
Ouais.
Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler en plus de détails de quelques-uns de ces grands reculs de l'histoire des marchés et surtout ce qu'on peut apprendre de chacun. La réalité, c'est que toi puis moi, on n'a pas été présents pour tout ces histoires-là, mais quand même pour quelques-uns.
Ouais.
Donc, Martin, on entend souvent parler de correction, de repli et même de crise financière. Mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que les marchés s'effondrent souvent?
Donc, on va un petit peu élaborer le jargon qu'on utilise. Mmh. Donc, un repli boursier, là, c'est une baisse du marché, du sommet, de moins de 10 %. Donc, ça baisse de 4, 5, 6, 7 %. C'est quand même, tu sais, 7 % d'un compte d'un million, c'est beaucoup d'argent. Mais ça, c'est un repli boursier. Ça arrive là, tout le temps, à tous les quelques mois, très, très fréquemment. Une correction boursière, c'est un repli de plus de 10 % du sommet, mais moins que 20. Donc, c'est quelque part à 12, 14, 18, là, c'est une correction boursière. Des corrections boursières, depuis 1950, il y en a eu 37. Donc, en 75 ans, il y a eu 37 corrections boursières de plus de 10 %. Donc, en moyenne, là, à toutes les deux ans, là, il y a une correction de plus que 10 %. Un marché baissier, c'est une baisse du sommet de plus de 20 %. Il y en a eu 14 depuis 1950. Donc, en moyenne, à toutes les 5,3 ans, on subit une baisse de 20 % du portefeuille. Donc, ça, c'est
pour ce qui est... 20% du marché.
20% du marché, pas nécessairement du portefeuille, parce qu'évidemment, un portefeuille diversifié peut composer des obligations. Il y a d'autres titres, là, mais donc, on parle là, du S&P 500. Là. Donc, les statistiques que je vous sors, là, c'est ceux du S&P 500. Ça peut être légèrement différent si on parle du TSX au Canada ou du Dow Jones ou des autres indices, là, mais en général, le S&P 500, c'est l'indice qui est le plus important et le plus suivi.
OK. Alors, je vais te faire reculer un petit peu plus loin dans l'histoire que 1950. Commençons par un classique, et les gens s'en souviennent peut-être par les histoires qu'ils ont entendues, les histoires de leurs parents, le crash de 1929. Est-ce que c'est vraiment aussi dramatique qu'on le dit?
C'était très dramatique, puis évidemment, il n'y avait pas toutes les mesures en place. Donc, suite au crash, la Réserve fédérale et les autorités ont mis beaucoup de mesures en place. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on parle du le lundi noir et mardi noir, là, donc Black Monday, Black Tuesday, le 28 et 29 octobre 1929. Durant ces deux jours-là, ces deux jours où le marché a subi des baisses d'une douzaine de pourcents chacun, donc 23 % en deux jours, ça l'a déclenché la grande récession là, des années 30, qui a duré presque une dizaine d'années. Le marché a atteint son creux en juillet 1932. Donc, de octobre 1929 à juillet 1932, l'indice Dow Jones, parce que le S&P 500 n'existait pas à l'époque, là, a baissé de 90 %. Donc, l'indice Dow Jones valait 381 la veille du Black Monday. Il est descendu à 41. Il est combien aujourd'hui, le Dow Jones? Il est à 40 527. Donc, tu sais, on...
Bien, puis le Dow Jones de 1929 et le marché des actions, ce n'est vraiment pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'était pas disponible pour tout le monde chez eux de regarder sur l'ordinateur et de savoir qu'est-ce qui se passait. L'information n'était pas présente autant qu'il est aujourd'hui. Donc, la panique pouvait se répandre.
Puis on n'allait pas sur Internet voir les cotes en direct. Donc, c'était littéralement quelqu'un avec une craie sur un tableau d'école là, qui écrivait les prix des actions dans les firmes de courtage. Puis c'était tellement la panique qu'ils étaient des heures en retard. Donc, les gens vendaient des actions, mais il n'y avait aucune idée du prix parce que le prix affiché sur le board, c'était le prix d'il y a 2-3 heures, puis ça pouvait être significativement différent.
Puis on sait qu'est-ce qui arrive quand il y a une panique. Puis on n'a pas d'informations, ben on panique plus.
On panique plus. Donc, vraiment, là, une période qui a été très, très difficile, une baisse de 90 % de l'indice à ce moment-là, ça l'a pris 10 ans à récupérer. Mais évidemment, suite à ça, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place, dont, entre autres, ce qu'on appelle en anglais le « circuit breaker ». Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est quand les marchés s'emballent et la bourse baisse de plus d'un certain nombre de points là, dans une journée, donc une dizaine de pourcents, littéralement, la bourse ferme pendant 15 minutes. Juste un petit peu pour que les gens là, reprennent leurs esprits, prennent le temps de réfléchir un petit peu. Ensuite, ils rallument la bourse. Si ça rebaisse encore, ils referment la bourse pendant une heure. Donc ça, on appelle ça le « circuit breaker ». Donc ça, c'est relativement nouveau, mais c'était lancé là, suite au Black Monday, un peu pour éviter là, que ça s'emballe, que la baisse entraîne plus de baisse.
Donc là, je te ramène dans une période où il y avait plus... c'était plus électronique, il y avait des ordinateurs, etc. 1987.
Donc, en 1987... je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, là, mais c'est le 19 octobre, donc 87. Donc, c'est pour ça que le mois d'octobre, c'est généralement pas un bon mois à la bourse parce que les deux pires crashs de l'histoire se sont produits au mois d'octobre. Donc là, on avait un S&P 500 qui existait à ce moment-là. Le S&P 500 a subi une baisse de 20 % en une journée. Du sommet au creux, on parle d'une baisse de 33 %. Donc vraiment, là, c'était un peu un air spéculatif qui s'est emballé, puis ça l'a vraiment juste décroché, puis les gens se sont mis à vendre parce que les autres vendaient, puis en une journée, ça l'a baissé de 20 % et de presque 30 %. Ça l'a pris, par contre, donc tu sais, on pourrait dire, hey, le pire moment d'investir, on s'entend que ça aurait été le 18 octobre 1987, là, juste la veille du crash, alors que le S&P 500 était à 336. Ben, le marché a quand même récupéré toute sa perte au milieu de 1989. Donc, tu sais, pas tout à fait 2 ans plus tard, on avait récupéré la perte. Aujourd'hui, donc, le S&P 500 valait 336. Aujourd'hui, on a terminé à 5560. Et là, c'est quand même contemporain, là. 1987-2024, là, c'est dans une vie d'une personne, là. T'sais,
on a des collègues qui l'ont vécu, qui sont encore en affaires aujourd'hui.
Exact.
Donc, ça, c'est bon signe. Là.
C'est bon signe. Donc, tu sais, c'est contemporain. Oui. Donc, si on a un horizon à long terme, tu sais, le crash de 87, c'était la pire journée de l'histoire en termes de pourcentage. Et puis, ben, 25 ans plus tard, on aurait réalisé, si on avait investi la veille du crash jusqu'à hier, on aurait fait 10,6% par année sur le S&P 500.
Donc là, qu'on se rappelle, toi et moi,
ouais.
On était tout jeunes, autour de 25 ans, on était à nos débuts, on avait un bébé. L'éclatement de la bulle techno en 2000. Je me rappelle très bien que les dot-com faisaient faillite.
Puis on a vu souvent beaucoup de parallèles avec d'autres bulles un peu plus récentes. Entre autres, moi, je trouvais que la bulle du cannabis ressemblait un petit peu à la bulle des technos. Donc, à l'époque, on se souvient, c'était la naissance de l'Internet. Donc, il y a eu toute la période, la fin des années 90, là, d'à peu près 95 jusqu'à 2000, la naissance de l'Internet qui était pour révolutionner le monde. On s'entend, ça l'a révolutionné le monde. Là, c'était absolument incroyable comme invention. Donc, il y a toutes les entreprises là, qui n'importe quoi qui était relié de près ou de loin à des sites d'Internet voyaient la valeur des actions augmenter. Moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de mines juniors canadiennes. Là, tu sais, le ABC Resourcing qui faisait de la recherche pour du minerai. Il abandonnait la mine, puis il faisait juste changer le nom pour abc.com, puis le titre montait de 50% cette semaine-là, alors qu'il n'y avait aucune opération en Internet. Là. C'était littéralement uniquement un changement de nom. On se souvient, bon, beaucoup de nos clients vont se rappeler au Canada de Nortel Network, qui vendait les produits pour qui étaient essentiellement l'ossature de l'Internet, toute la fibre optique, les switches, toutes les composantes qui fait que l'Internet fonctionne. Ben, le sommet du marché, donc, a eu lieu le 24 mars 2000. Le S&P 500, à ce moment-là, était à 1527. Le creux du marché a eu lieu le 9 octobre 2002. Entre les deux, là, il s'est passé aussi un autre événement, il y a eu le 11 septembre. Donc, le 11 septembre qui a un petit peu aggravé la récession, mais qui était déjà installée avec la chute des dot-com, les entreprises faisaient faillite une après l'autre, parce qu'essentiellement, c'est des entreprises qui n'avaient pas de revenus, pas de profits, une évaluation boursière très, très élevée. Et puis finalement, ben, ils ont surbâti l'Internet, puis à un moment donné, les achats ont arrêté et ces entreprises-là ont disparu. Donc, du sommet jusqu'au creux, le S&P 500 a perdu 49 % de sa valeur. C'était passablement long à récupérer. On a atteint un nouveau sommet le 30 mai 2007. Cette période-là, là, donc incluant ensuite, on va reparler de la grande crise financière, là, mais on appelle ça la décennie perdue, là, the lost decade. Un investisseur qui a commencé en 2000, en 2010, ça fait 10 ans qu'il est dans l'S&P 500, il n'a pas fait une scène. Parce que ça l'a monté, ça l'a rebaissé, puis il était au même niveau.
Nous, on a une historique de certains clients qui étaient clients en 1998 ou 19, donc c'est dans notre système.
Ouais.
Et ils sont encore clients aujourd'hui et ils ont fait des rendements
tout à fait corrects. Des rendements, honnêtement, si on effaçait l'historique annuel de leur performance, puis mettons qu'on pouvait, là, puis on disait, ben je te garantis ce rendement-là pour les 25 prochaines années, le monde saignerait, là, il disait « Parfait, je prends ça ». Évidemment, c'est pas la réalité, puis il y a des hauts et des bas, là, mais le rendement est tout à fait adéquat malgré ça.
Je pense qu'avec cette visibilité-là, ça, c'est très rassurant comme conseiller. Pour toi, 2000, ça a été une grande période d'apprentissage.
Ouais.
Et t'es un meilleur conseiller pour avoir vécu cette période-là. L'autre que t'as vécu, qui a été très, très difficile, c'est la fameuse crise de 2008. Celle-là, on s'en rappelle. Les gens l'oublient, par exemple. Quand on parle aux clients, ils oublient cette période-là. Elle a frappé fort partout dans le monde.
Oui. Donc, la grande crise financière. Donc, c'est vraiment là, une période... Les marchés ont atteint leur sommet en 2007. Puis là, ben déjà, on avait un certain essoufflement. Les bourses là, flottillaient à la baisse tranquillement, mais c'était pas majeur. Ça s'est envenimé à l'automne 2008, puis ça l'a vraiment atteint. Ça l'a vraiment accéléré le 15 septembre 2008 quand la firme Lehman Brothers s'est effondrée. Pourquoi elle s'est effondrée? Ben, il y a eu toutes sortes de nouveaux produits financiers. Donc, le marché immobilier aux États-Unis s'est vraiment enflammé. Les valeurs des maisons augmentaient beaucoup. Les firmes d'investissement ont créé des titres financiers là, adossés à des créances hypothécaires. La majorité des créances hypothécaires étaient sur des taux variables qui sont différents de ceux au Canada. Ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement, là, les taux variables au Canada puis aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vraiment, le paiement monte. Tu as un taux faible pendant un an ou deux, puis après ça, le taux est beaucoup plus élevé puis le paiement est beaucoup plus élevé. Et les gens prenaient ça parce qu'ils disaient, ben, de toute façon, l'année prochaine, je vais revendre la maison qui va valoir 20 % de plus. T'sais. Évidemment, quand la maison a arrêté d'augmenter puis elle s'est mise à rebaisser, ces gens-là n'étaient pas capables de faire les paiements. Il y avait des pratiques de prêt aussi qui étaient très, très libérales. Là. Donc, on a inventé à ce moment-là le terme ninja, là, no income, no asset, no job. Et ces emprunteurs-là qui n'avaient pas d'actifs, pas de revenus, rien, mais ils empruntaient pareil puis les banques leur prêtaient. Et donc, ça s'est effondré. Le creux a été atteint en mars 2009. Le S&P 500, à ce moment-là, était en baisse de 57 %. Donc, juste avant la crise financière, au sommet 1565 sur le S&P 500, on est tombé à 676. Combien qu'on est aujourd'hui sur le S&P 500? 5560. Donc, on a récupéré, ça a pris quand même un bout de temps à faire des nouveaux sommets, mais le marché s'en est remis.
Exactement. Puis encore une fois, on le voit dans la performance des clients. Ouais. Les portefeuilles des clients s'en sont remis aussi, et quand même assez rapidement.
Ouais.
Donc, on ne peut pas certainement oublier mars 2020 ni 2022 qu'on a vécu tout récemment.
Exact. Donc, il y a eu la COVID en 2020, évidemment. Donc, si on m'avait dit le 1er janvier cette année, il va y avoir une grande pandémie, des millions de morts, l'économie va fermer, le taux de chômage va monter à 20 %. Évidemment qu'il n'y a personne qui aurait investi en actions. Donc, durant la COVID, le sommet pré-COVID, le 19 février, le S&P 500 est à 3386. Le 25 mars, donc à peine un mois plus tard, 2192. On parle en tout d'une baisse d'environ 38 % en un mois. Donc ça, c'était, en termes de rapidité, là, vraiment la baisse la plus sévère là, que moi, je me souviens. Par contre, en août 2020, donc à peine quelques mois après, c'était complètement effacé. Évidemment, les titres de technologie avaient pris la relève, puis le marché a regardé au-delà de la COVID.
Puis on était tous très nerveux et on était tous dans l'esprit, cette fois, c'est différent. Et
c'est toujours différent à chaque fois, mais ça finit toujours par récupérer. 2022, c'était vraiment un choc de taux d'intérêt. L'inflation s'est envenimée à cause de la COVID. Donc, un peu, on peut relier le 2022 à 2020 aussi. Les banques centrales ont dû augmenter les taux. Ça a freiné un peu l'économie. Ça a fait baisser la valeur des obligations. Ça a fait baisser l'évaluation des entreprises aussi en raison des taux d'intérêt. Donc, et là, ça l'a quand même récupéré relativement rapidement. Ça a baissé pendant 6 mois. Ça a resté bas 6 mois. Puis ça a pris à peu près un an. Puis la baisse de 2022 était effacée là, dès 2023.
Puis la réalité, c'est que les gens ont vécu beaucoup d'événements dans les 5 dernières années. Puis des événements très difficile psychologiquement, moralement, puis là, on en vit un autre. Fait qu'on est reconnaissant qu'il y a eu plusieurs périodes dans une courte laps de temps. Mais quelles sont les leçons à retenir? Qu'est-ce que toi, t'as retenu des moments que t'as vécu dans ta carrière?
Le marché va toujours finir par rebondir. Donc, les banques centrales sont présentes, les gouvernements sont présents, puis au besoin, ils vont stimuler l'économie. Il faut faire confiance aussi aux dirigeants des entreprises qu'on détient. Eux aussi, ils font ce qu'ils ont à faire dans leur entreprise pour rebondir aux différentes crises. Donc, il faut demeurer investi. Le marché va finir par rebondir. Les émotions, là, c'est le pire conseiller financier. Donc, c'est sûr que si on se laisse influencer par la peur, donc les pires conseillers, c'est la peur et l'avarice. Donc, la peur de perdre l'argent puis la peur de manquer le bateau, c'est la même peur. Il faut pas se laisser influencer par ça. Et nous, on est là un peu pour ça. C'est normal d'avoir peur. Hein? On a peur, nous aussi, mais on a appris comment se comporter puis il faut faire confiance en l'avenir. Puis avoir un plan d'investissement clair et s'y tenir est essentiel. Donc, quand on établit le profil d'investisseur puis on détermine une répartition d'actifs, cette répartition-là ne devrait pas changer de façon significative en raison d'événements externes. Donc, si le marché baisse un peu puis je suis un investisseur 30 % obligation, 70 % en action, ben je peux aller 35-65, mais tu sais, je devrais pas aller 100 % en obligation. On peut légèrement baisser les actions, légèrement augmenter, mais on ne devrait pas s'écarter significativement de son allocation d'actifs à moins qu'il y ait un changement majeur dans notre situation à nous et non dans celle du marché et de l'économie.
Exactement. Et pas d'excès de conviction. Exact. Donc, merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, Martin et moi serons en vacances du 4 au 16 mai. Donc, pas de balado, malheureusement. Mais Mathieu et Michel seront là et ils veillent au grain. Et nous, on est toujours disponibles. On n'est pas loin de nos téléphones. Donc, ça veut dire que merci pour votre écoute cette semaine, mais notre balado sera de retour le 21 mai. Merci.